Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire sur la transition, proposition de transition sur le rôle de l'AYANA. Je m'appelle Alissa Cooper, je suis une des présidentes du groupe de coordination pour la transition du rôle de supervision des fonctions YANA. Et avec moi, il y aura des vice-présidents, donc Patrick Fortstrom, ainsi que d'autres membres de l'ICG, qui seront là pour répondre à vos questions. Le webinaire est enregistré et les séances de chat sont archivées, donc nous vous demandons de garder ceci à l'esprit. Nous avons l'interprétation dans les 6 langues des Nations Unies ainsi qu'en portugais. Et nous, nous avons également un lien dans la salle Adobe Connect avec des informations sur la session. Donc nous vous invitons à suivre dans les autres langues par le biais de ce lien. Nous allons commencer par 45 minutes de présentation qui seront suivies par 45 minutes de questions-réponses. Nous vous demandons de garder vos questions pour la partie questions-réponses, donc la deuxième partie de notre appel. Votre micro sera mis sur silencieux pendant la présentation. Lorsque nous passerons à la partie questions-réponses, nous accepterons les questions par audio ou alors par chat. Les consignes sont contenues dans le pod d'information dans la fenêtre Adobe. Et donc, nous y passerons, nous en parlerons quand nous passerons à la séance questions-réponses. Donc, ceci étant, je crois que nous pouvons commencer. Alors, si nous regardons notre ordre du jour pour aujourd'hui, nous allons en fait passer en revue YANA et la transition du rôle de supervision des fonctions YANA. Nous savons bien que tout le monde n'a pas suivi tous les détails de cette transition et que tout le monde n'est pas nécessairement au courant de ce que fait l'AYANA et des institutions qui l'entourent, donc nous en parlerons. Ensuite, nous passerons à la proposition de transition et je passerai donc la parole à Patrick qui parlera des différents composants de cette proposition. Et ensuite, nous parlerons des questions qui ont été établies par l'ICG pour la période de consultation publique. Nous parlerons du comment pour soumettre les commentaires et ensuite nous aurons la partie questions-réponses. Donc, pour commencer par le commencement, nous nous sommes dit qu'il serait important de définir une base par rapport aux fonctions YANA, à savoir qu'est-ce que la YANA, que fait-elle. Donc, si vous pensez au fonctionnement de l'Internet, en fait, les fonctions techniques de l'Internet s'appuient sur des bases de données, ou plutôt ce que l'on appelle dans les termes YANA et ICANN, des registres de numéros uniques et de noms uniques que tous les ordinateurs utilisent pour communiquer entre eux sur l'Internet. Donc, lorsqu'un ordinateur se connecte sur l'Internet pour naviguer sur le web, le serveur utilise ces noms, ces numéros pour communiquer avec d'autres ordinateurs qui sont également connectés. Il y a 3 catégories principales de registres. Premièrement, les noms de domaine, donc les noms. Ensuite, il y a les nombres et ensuite, il y a les paramètres de protocole. Et nous allons parler de chacune de ces catégories dans davantage de détails afin que vous puissiez afin que vous puissiez comprendre les fonctions de l'Internet. Donc, ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que l'administration des différentes catégories de registres, c'est en fait, ou l'administration de ces registres, c'est en fait la fonction de l'AYANA, justement. Et c'est en fait un ensemble de fonctions cléricales, administratives à la base, pour l'administration de ces registres. La définition des politiques par rapport à ce qui rentre dans ces registres sort des fonctions de l'AYANA. Cela ne fait pas partie de ce qui est englobé dans les fonctions de l'AYANA en elle-même. Donc, si nous prenons en considération la partie un petit peu plus générale de l'AYANA et de son rôle par rapport au rôle d'autres entités dans l'écosystème, en fait, il faut revenir un petit peu en arrière dans le temps. Donc, on revient à 1998, où l'ICANN, donc la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros, a été créé pour entretenir les registres dans le cadre d'un contrat avec le gouvernement américain. Donc en fait, l'ICANN a un département intérimaire qui s'appelle en fait l'IANA, et ce qui est en fait l'agence. Et donc en fait, l'Agence nationale des télécommunications et de l'information des États-Unis a, donc la NTIA, a ce contrat avec l'ICANN. Et donc ce contrat supervise, permet à la NTIA de superviser l'ICANN. Le rôle de la NTIA est un rôle de supervision. Ce n'est pas un rôle opérationnel, ce n'est pas un rôle qui permet d'initier des changements dans les registres de l'Internet en eux-mêmes. C'est principalement un rôle de surveillance ou de supervision. Donc c'est en bref de ceci dont on parle lorsqu'on parle de la supervision pendant la présentation. Donc au jour d'aujourd'hui, ou pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire en mars 2014, la NTIA a annoncé la transition de son rôle qui devait donc être remis à la communauté. Et donc la NTIA a demandé à l'ICANN d'organiser un processus pour développer une proposition de transition. Et lors de cette annonce, la NTIA a défini un certain nombre de critères ou d'attentes qui devaient être respectés dans le cadre de cette proposition de transition. Et donc ces critères étaient les suivants. Déjà, de soutenir et même d'améliorer le modèle multipartite, de maintenir la sécurité, la stabilité et la résilience du système de nom de domaine de l'Internet, le DNS, de répondre aux attentes des clients et des partenaires internationaux des services de l'IANA et d'entretenir le caractère ou la nature ouverte de l'Internet. Par ailleurs, la NTIA a défini que cette proposition devait être soutenue par la communauté plus large et qu'elle ne devait pas remplacer le rôle de la NTIA par une organisation, une solution gouvernementale ou intergouvernementale. Donc depuis mars 2014, le travail qui a été investi dans cette transition a été orienté vers la création d'une proposition qui corresponde à ces critères. Donc si on regarde un petit peu plus dans les détails l'emploi du temps, cela nous permet de comprendre un petit peu à quoi correspond la proposition que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons eu l'annonce de la NTIA en mars 2014. Ensuite, il y a eu consultation lancée par l'ICANN, donc avec la formation de l'ICG qui a été formée en juillet de l'année dernière. L'ICG est composé de 30 membres et de 2 liaisons qui représentent en fait une large gamme de parties prenantes. Et ces parties prenantes incluent des gens de la communauté opérationnelle, c'est-à-dire la communauté qui existe autour des différentes catégories des registres IANA. Donc il y a la communauté des noms, la communauté des nombres, la communauté des paramètres de protocole. Et l'ICG inclut également des membres de diverses parties prenantes, donc les entreprises, les gouvernements, etc. En septembre 2014, l'ICG a émis un appel à proposition qui donc a été remis à la communauté. Et donc on a demandé à la communauté opérationnelle de mettre au point une proposition de transition pour l'ensemble des registres. Et donc depuis lors, nous avons reçu les propositions des différentes communautés opérationnelles et l'ICG a donc combiné ces propositions pour créer une proposition commune qui est maintenant disponible pour consultation publique. Donc la période de consultation publique a été ouverte vendredi dernier, donc le 31 juillet. C'est en fait l'étape suivante de ce qui caractérise en fait la fin d'un processus assez long, donc le développement de cette proposition combinée. Chaque composant de chaque communauté a déjà été soumis à beaucoup d'études pour certaines publiques, avec diverses périodes de consultation publique, des centaines et des centaines de commentaires. Et donc l'appel à consultation publique qui a été demandé par l'ICG la semaine dernière se focalise sur la manière dont ces différentes composantes fonctionnent ensemble. Et est-ce que, la deuxième question, c'est de savoir si cela correspond aux critères de la NTIA. Donc, ce n'est pas une question de détail des différentes prépositions, ne se concentre pas là-dessus, mais plutôt sur l'ensemble. Donc, les suggestions en tant qu'ICG que nous avons reçues dans le cadre de cette période de consultation publique ont trait et qui ont trait aux propositions diverses seront remises aux différentes communautés. Les questions qui ont déjà été discutées dans ces communautés ne vont pas y revenir. En fait, ce que nous prenons en considération maintenant, c'est vraiment la proposition dans son ensemble. Et nous reviendrons sur les questions qui sont prises en considération actuellement par l'ICG à la fin de la présentation. Je vais maintenant passer la parole à Patrick Sandstrom qui va parler de la partie des noms de la proposition. Merci beaucoup, Alissa. J'espère que tout le monde m'entend. Vous pouvez y aller, Patrick. Patrick au micro. Merci beaucoup. Donc, si on commence par prendre en considération la proposition sur les noms, si on regarde un petit peu ce qu'elle contient, il faut en fait considérer l'espace des noms en lui-même, l'espace des noms de domaine tel qu'il existe. Nous avons l'espace des noms de domaine. Et en haut, nous avons en fait la racine. En dessous de la racine, nous avons les domaines de premier niveau. Et en dessous de ces noms de domaines de premier niveau, qui sont gérés par des registres, nous avons les noms de domaines de deuxième niveau, etc., suivant l'enregistrement qui est fait. Mais ce qui est intéressant ici, pour la communauté opérationnelle, c'est la question de la gestion, de la coordination de cet espace de domaine, la coordination plus spécifiquement des noms en eux-mêmes. Donc, si on prend en considération la fonction YANA, nous considérons de manière plus spécifique des demandes qui pourront être faites par les membres de la communauté. En fait, différentes choses peuvent être changées, par exemple, qui est l'opérateur, qui est le contact, quelle est la configuration technique et quelles sont les métadonnées. Donc, ce qui est le plus important, bien sûr, c'est la question de la configuration technique et les noms de serveurs qui sont utilisés pour prendre en considération les noms de domaine pour chacun des noms de domaine de premier niveau. Mais on ne peut pas en fait oublier, par exemple, que les informations, les coordonnées, par exemple, qui est responsable du nom de domaine de premier niveau, c'est-à-dire quel est le contact, c'est aussi important. Donc, si on prend en considération les différents changements qui peuvent être apportés, quelles sont les fonctions qui sont liées au nom, nous avons par exemple un sous-ensemble des différents domaines, des différents changements qui peuvent être demandés. Donc, par exemple, il y a la question de la gestion des demandes de changement de la zone racine en elle-même. Donc, les informations sur le nom de domaine. Nous avons la question de la gestion des demandes de changement du WHOIS. Nous avons la question de la délégation et de la redélégation d'un TLD. Et donc, tout ceci, ce sont des demandes qui viennent du détenteur de nom de domaine au moment de l'enregistrement. Mais il y a aussi des questions opérationnelles qui sont gérées par YANA elle-même. Donc, par exemple, nous gérons le DNSSEC actuellement, sur les informations du DNS en lui-même, et donc, pour ce qui est du DNSSEC, pour que cela fonctionne, cette zone racine en elle-même doit disposer d'une gestion, de la gestion de clés. Et donc ceci est également géré par YANA. C'est également le cas pour les TLD qui ont des référentiels d'IDN Et donc, en cas de plainte, téléphonez-moi, c'est moi qui m'en occupe, mais il y a différents TLD qui n'utilisent pas forcément la même langue, et donc parfois il y a des caractères qui sont différents dans les différentes langues, et donc Liana a un référentiel qui permet de gérer tout ceci dans les différentes langues. Et donc c'est Liana qui s'occupe de tout ceci. Et puis il y a d'autres activités liées à la zone racine qui sont liées à différentes opérations et nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de ceci. Mais donc pour résumer, Liana fait un certain nombre de choses au niveau des registres et puis il y a d'autres activités qui sont en fait ce qui est nécessaire du point de vue des opérations. Donc, si on considère ce qui existe aujourd'hui, la proposition aujourd'hui, en fait, si j'enlève tout ce qui est lié aux opérations en elles-mêmes, si on ne considère que la question de la surveillance, en fait, la question principale, c'est ça, c'est la surveillance, la supervision. Donc, dans le cadre du contrat actuel entre la NTIA et ICANN, la NTIA donc, a ce contrat avec l'ICANN et elle impose à l'ICANN d'opérer ou de gérer les fonctions de Liana d'une certaine manière. Donc vous avez un tout petit carré en bas à droite qui s'appelle Liana et donc en dessus vous avez la surveillance. Donc la NTIA dans le cadre du contrat s'occupe de surveiller ce qui se passe en termes d'opération. Donc il y a une certaine fonction qui ne peut il y a certaines fonctions de l'ICANN qui ne peuvent pas être effectuées sans que la NTIA ait donné son accord. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'en fait elle s'occupe des statistiques, elle s'assure que les choses sont faites correctement et puis en cas de plainte, eh bien, et il y en a d'ailleurs très très peu, mais donc, c'est également quelque chose qui fait partie du mandat de la mission de la NTIA. Donc, étant donné ce contrat qui existe, et étant donné qu'il va disparaître, eh bien, que faire en termes de supervision? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les questions que s'est posée la communauté multipartite. Le contrat va disparaître, que faut-il donc faire maintenant? Ou bien même, faut-il faire quelque chose? Et donc c'est un petit peu comme ça que les gens se sont mis à réfléchir à la question. Donc lorsque le groupe de travail s'est mis à penser à ceci, à la transition après Liana, eh bien la conclusion qu'ils ont tirée, c'est que ce qu'il faut, en fait, c'est une séparation juridique entre l'ICANN et le PTI, ce qu'on appelle le PTI, c'est-à-dire Liana après transition. Donc, le PTI a un conseil d'administration, et donc tout est stipulé en termes de ce que fait le PTI, et ce PTI va communiquer avec l'ICANN. Et donc, la gestion des plaintes se fait à ce niveau-là. Mais la supervision n'est pas gérée par l'ICANN, elle est gérée par le PTI, parce que dans le cadre du contrat, l'ICANN demande au PTI de faire ce qu'il doit faire, mais en ce qui concerne la supervision, il y a d'autres fonctions dont je parlerai un petit peu plus dans quelques instants. Il y a la fonction IANA, la fonction IFR et la fonction du CSC. Alors, ce CSC, c'est donc le comité permanent de clients qui considère les fonctions IANA, alors que l'IFR considère comment le PTI et l'ICANN fonctionnent ensemble, comment ils collaborent. Et étant donné qu'il y a certaines fonctions IFR spécifiques qui permettent d'être efficaces, et donc il y a également la question de la séparation du PTI et de l'ICANN qui est prise en considération par l'IFR en même temps. Donc, si on considère ceci séparément, la mission du PTI, c'est d'établir pour toutes les fonctions existantes et pour toutes les fonctions après transition IANA, tout ce que fera l'ICANN, donc les fonctions de l'IANA qui seront faites par l'ICANN, tout ceci doit être pris en considération par le PTI. Donc la coopération est très simple. Ensuite, si on regarde l'entité suivante, le CSC, sa mission, c'est d'assurer une poursuite ou une performance qui continue d'être satisfaisante par rapport aux fonctions de nommage de l'IANA. Donc, les opérations journalières, les plaintes, tout ce qui peut se produire au jour le jour, c'est en fait une question de supervision au jour le jour de ce que fait l'ICANN. L'entité suivante, l'IFR, c'est en fait une révision périodique des fonctions IANA. Donc elle regarde, cet IFR regarde le contrat et s'assure que l'ICANN effectue tout ce qui est écrit dans le contrat à la satisfaction des membres de l'IFR. Donc les pouvoirs qu'a l'IFR sont les suivants. Donc il peut agir si par exemple il n'y a pas une séparation qui existe. Donc l'IFR est différent du CSC parce que l'IFR met en place des révisions périodiques alors que le CSC, c'est le comité permanent qui prend en compte les opérations au jour le jour. Alors si on considère un des points qui a été considéré par les personnes impliquées dans ce travail, il y a un certain nombre de choses, surtout au niveau du CWG nommage ou de la proposition du CCWG sur la responsabilité, il y a un certain nombre de choses qui dépendent du CCWG responsabilité. Et donc, de notre perspective, ce qui est énuméré à l'écran est lié déjà au budget, au conseil d'administration et à la capacité de révoquer des membres ou de révoquer la totalité du conseil d'administration. S'il y a un problème de respect du contrat, il y a la question de la révision des fonctions IANA, de leur incorporation dans les statuts de l'ICANN. Il y a également le CSC et l'IFR qui doivent être également incorporés dans les statuts. Il y a la question de l'habilitation de l'IFR pour déterminer le processus de séparation qui est nécessaire pour assurer que le mécanisme de responsabilité est mis en place, parce que vous comprenez bien que le CSC et l'IFR s'occupent de la responsabilité. Leur travail est lié à cette responsabilité. Et donc voilà ce que font ces entités. Et donc leur capacité à agir et les exigences comme quoi l'ICANN peut agir sur demande de ces entités, c'est quelque chose qui doit être défini dans la proposition de la responsabilité. Donc tout ce qui est important, ce dont il faut bien se souvenir, c'est que les mécanismes qui existent doivent être définis dans des statuts fondamentaux. Et donc il y a une différence entre les statuts fondamentaux et les statuts standards. Les statuts fondamentaux sont beaucoup plus difficiles à changer que les statuts standards. Alors, la grosse question, ou la grande question, c'est de savoir comment synchroniser le travail de l'ICG et du CCWG. Donc actuellement, nous en sommes à la période de consultation publique et nous demandons aux gens de consulter les questions qui ont été proposées pour savoir déjà si tous les problèmes ont été résolus. Et ceci est très important. Donc nous vous demandons absolument de répondre aux questions, à savoir si toutes les exigences ont été atteintes. Si effectivement vous avez un commentaire à faire et qui a très haut fonctionnalité, nous vous demandons d'être très très clair par rapport aux problèmes spécifiques dont vous parlez. Ceci est très important parce que nous devons pouvoir l'évaluer. Alors, si nous passons à la question des nombres, la proposition sur les numéros, tout d'abord, nous allons d'abord considérer quel est le lien entre le fonctionnat et les numéros. Premièrement, il y a attribution des blocs d'IP et d'AS aux registres Internet régionaux et l'enregistrement de ces attributions dans les registres de numéros IANA. Et tout ceci est fait par l'IETF. Alors, l'IETF donne des numéros à l'IANA par le biais des RIR. Donc, lorsque les RIR ont besoin d'un espace d'adresse, ils font cette demande à l'IANA. La gestion se fait par l'ASO au sein de l'ICANN. Et donc, nous regardons les noms et ceux-ci sont gérés également par l'IANA. Donc, par exemple, lorsqu'un RIR a un bloc d'adresse, les questions de DNS qui mettront en place des changements seront également faits par l'IANA. Alors, si vous regardez à gauche, vous avez la situation actuelle. Et donc, la NTIA a un contrat et elle a droit de supervision sur les fonctions IANA. Et donc, il y a également évaluation de la performance. Il y a également attribution de l'espace des données par le biais des RIR pour l'attribution des numéros, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, après la transition, une fois que la NTIA aura disparu, il y a un certain nombre de choses qui vont changer. Et trois principales choses qui vont changer. Donc, la première chose à noter, c'est que l'ICANN continuera comme opérateur ou opératrice des fonctions de l'IANA, exactement comme aujourd'hui. Donc, tout ce que fait l'IANA sur les numéros et les noms resteront. Et donc, ceci se fait dans le cadre d'une convention de service avec les RIR, donc, et l'ICANN. La deuxième chose, c'est la question des droits de la propriété intellectuelle. Donc, pour fournir les services IANA, eh bien, cela dépend de la communauté. La troisième chose qui est ajoutée par le groupe CRISP, qui est en fait le groupe qui a aidé à développer la proposition, c'est donc la création d'un comité de révision pour qu'il puisse y avoir une évaluation de la performance pour s'assurer que l'IANA fait ce qu'elle est censée faire. Donc, ce qui a été prévu, c'est de créer un comité de révision qui considère un petit peu les différentes communautés RIR et qui leur donne une consultation par rapport à leur travail. Et bien sûr, ceci correspondra à un certain nombre d'accords qui ont déjà été définis. Alors, si vous regardez ce comité de révision et la manière dont il est constitué, la proposition ressemble à ceci. Donc, vous avez les différents RIR. Chacun d'entre eux a un processus multipartite, travaille selon un processus multipartite. Donc, si on considère leur performance, donc les RIR ont eux-mêmes des représentants qui forment en fait leur communauté. Donc la communauté reçoit des avis par rapport à la mesure des performances et la communauté revoit ensuite la performance des fonctions YANA de la CAN. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais d'un autre côté, c'est en fait quelque chose qui existe déjà parce que les RIR avaient déjà créé des groupes de ce type, comme l'ESO au sein de la CAN, différents moyens de coordination de manière à gérer ou à plutôt coordonner le travail des différents RIR. Il y a également le CRIT qui a développé une proposition pour les RIR. Donc oui, c'est une nouvelle entité, mais c'est quelque chose qui de fait existait déjà. Et ce n'est pas quelque chose qui doit surprendre qui que ce soit. Alors, si nous regardons les principes des conventions de service, encore une fois, ceci ne surprendra personne si vous avez déjà travaillé avec les conventions de service dans le domaine technologique, parce qu'il y a un certain nombre d'exigences assez spécifiques qui sont importantes pour s'assurer que le travail est adéquat. Donc, par exemple, la séparation des rôles de développement de politique, des rôles opérationnels, la révision des opérations, etc., etc. Donc tout ce qui existe en principe sera intégré à ces conventions de service. Ensuite, le point suivant dont nous avons parlé, et vous le savez pour certains d'entre vous, cela passe à un certain nombre que nous en parlons, c'est la question de la propriété intellectuelle. Donc il est considéré que les registres de ressources de numéros font partie du domaine public, mais que les informations non publiques qui les concernent soient gérées par l'opérateur YANA. Et ceci est très important, qu'il soit en fait remis à un successeur si nécessaire. Alors, nous allons un petit peu plus loin ici, parce que nous disons que la question, c'est à qui appartient la marque de commerce et le nom. Et donc, nous avons la question de l'IETF Trust, et c'est ce qui est d'ailleurs préféré. La conclusion du CRISP et des RER a été qu'il fallait donc transférer tout ceci dans le cadre du Trust IETF. Et bien sûr, l'équipe CRISP en est arrivée à la conclusion comme quoi toutes les parties impliquées devaient se mettre d'accord par rapport à ces attentes. Donc cela a nécessité énormément de travail au sein des RIR pour en arriver à la conclusion comme quoi les noms de domaine devait faire l'objet d'une proposition très spécifique. Alors, je vais maintenant repasser le micro à Alissa. Merci Patrick. Donc, nous avons encore autre chose à mentionner par rapport à la proposition sur les paramètres de protocole. Donc, pour bien comprendre cette proposition, il faut déjà comprendre ce que sont les paramètres de protocole. Donc, ces paramètres de protocole sont en fait des moyens standardisés de communication qui sont utilisés par les ordinateurs sur l'Internet pour pouvoir communiquer. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du protocole HTTP ou IP, qui sont des exemples très courants. Et donc, lorsque nous utilisons des protocoles sur l'Internet, lorsqu'on conçoit des paramètres de protocole, on utilise des nombres ou des valeurs qui doivent être choisies, qui doivent être publiées afin que deux ordinateurs qui utilisent le même protocole puissent communiquer et se comprendre. Et donc, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu, si vous êtes rendu sur un site web, une page 404, erreur non trouvée ou error not found. Donc ça, c'est un protocole. Un paramètre de protocole, pardon. Donc, il y a un numéro qui a été choisi, qui a été publié et qui permet à mon ordinateur, lorsque je me rends sur un site web, de me dire qu'il y a eu une erreur et que cette page ne peut pas être trouvée. Donc, voilà un petit peu un exemple pour illustrer de quoi on parle. Et comme Patrick l'a dit, l'IETF, le groupe de travail du génie Internet, est un organisme qui a conçu un grand nombre de ces protocoles Internet. L'IETF est considéré comme vraiment la communauté opérationnelle de l'Internet en termes de paramètres de protocoles. Ces paramètres de protocoles sont publiés sur le web, sur le site de l'IANA. Ils contiennent des centaines de milliers de protocoles, de paramètres de protocoles. Et la dernière chose à bien comprendre par rapport à ces paramètres de protocoles, c'est que on n'y fait pas référence en temps réel sur le site de l'IANA, mais on y fait référence dans le cadre du travail des développeurs de logiciels. Ce sont les ingénieurs qui les utilisent lorsqu'ils développent des logiciels. Ils en ont besoin, en fait, de ces codes pour leur travail. Donc voilà à quoi correspondent les paramètres de protocole. Maintenant, en ce qui concerne le modèle de supervision pour les registres de paramètres de protocole, encore une fois, il faut revenir un petit peu en arrière dans le temps. Donc, l'IETF a un accord avec l'ACAN qui existe depuis plus de 50 ans et qui gouverne la relation entre l'IANA et l'IETF. Cet accord, c'est en fait le protocole d'entente, d'accord. Et donc, vous avez également une entité qui s'appelle le Conseil de l'architecture de l'Internet qui supervise cette relation entre l'IETF et l'IANA et qui s'assure que les choses restent saines et que le MOU, ou plutôt le protocole d'accord, est bien respecté. Au fil du temps, il y a eu un certain nombre de conventions qui ont été mises à jour, des conventions de service qui permettent à l'IANA de fonctionner et qui permettent aussi superviser le travail de l'IANA. Donc si on considère la différence entre ce qui existe actuellement depuis un certain nombre d'années et ce que nous proposons lors de la phase après transition, en fait, il n'y a pas énormément de différence. Dans le cadre du contrat actuel, la NTIA a donc ce contrat avec l'ICANN, et lors de la phase après transition, le contrat n'existera plus. Et il n'y a pas d'autres nouvelles structures qui doivent exister, en fait, du point de vue de l'IETF. En fait, l'IETF, l'ICANN et l'IAP ont créé un système d'accords, de mécanismes de supervision qui couvrent déjà ce qui est nécessaire dans le cadre de la transition. Donc le système a bien fonctionné sans qu'il y ait besoin d'une implication opérationnelle de la NTIA. L'IETF s'attend également à ce que les registres de paramètres de protocole continuent de fonctionner au jour le jour, tel qu'ils l'ont fait au cours des dernières décennies. Et donc la communauté IETF est tout à fait satisfaite avec les dispositions qui existent actuellement avec la CAN. Donc l'IETF propose tout simplement que rien d'autre ne soit intégré à ce qui existe actuellement. Cependant, en l'absence de contrat avec la NTIA, l'IETF a quand même proposé quelques nouvelles dispositions de manière à s'assurer que la communauté, les attentes de la communauté IETF soient toujours respectées. Et donc, ces attentes sont les suivantes. Tout d'abord, que les registres de paramètres de protocole appartiennent au domaine public et que toutes les parties reconnaissent ceci dans le cadre de la transition. Et deuxièmement, il est possible qu'à l'avenir, les registres de paramètres de protocole puissent être transférés de l'ICANN à d'autres opérateurs, et dans ce cas-là, la communauté IETF préférerait que l'ICANN reconnaisse qu'ils doivent continuer de respecter les obligations qui existent dans le contrat avec la NTIA en ce qui concerne une transition, pour qu'il y ait une transition en fait harmonieuse. Et s'il y a une transition qui se fait et qui éloigne ceci de l'ICANN, les opérateurs travailleront ensemble de manière à minimiser les problèmes pour les opérateurs de registre. Donc voilà un petit peu en termes d'attente ce que la communauté IETF a défini pour des scénarios potentiels à venir. Et donc ceci étant, nous avons parlé des trois principales composantes de la proposition et donc nous souhaitions voir un petit peu comment est-ce que tout ceci s'imbrique. Donc vous voyez que dans ce dessin, vous avez la proposition générale, vous avez la supervision générale, donc déjà l'interaction opérationnelle entre les communautés. Les opérateurs de des fonctions IANA ne sont pas illustrés ici. Ici, vous avez uniquement la question de la supervision, en rassemblant les trois diagrammes que vous avez vus dans la présentation. Donc vous voyez un petit peu un aperçu général de ce à quoi ressemble la proposition combinée. Donc, que l'ICANN aurait établi le PTI, donc l'après-transition, qui soit donc séparé de l'ICANN, la sous-traitance des fonctions IANA par l'ICANN au PTI, et à droite, ceci inclut donc des moyens d'intervention progressive par le biais du comité permanent de clients qui donc s'occupera de la performance journalière. Et puis, vous avez l'IFR pour une révision périodique de la performance plus générale. Et en haut, vous avez les RIR qui donc auraient une convention de service avec la CAN. Et le comité de révision pourrait en fait analyser la performance d'une manière générale. Et à gauche, dans la partie paramètres de protocole, vous avez le MOU avec l'ICANN et la continuation des activités donc pour la surveillance de tout ce qui est relatif aux paramètres de protocole. Donc voilà un petit peu comment les différentes composantes s'imbriquent les unes dans les autres dans le cadre de la proposition. Donc, passons maintenant aux questions pour consultation publique. Donc, l'objectif de l'ICG, dans le cadre de cette période de consultation publique, c'est à la fois d'avoir beaucoup de commentaires et également des commentaires de substance. Donc ces commentaires doivent venir de personnes qui ont participé depuis le début et puis aussi de personnes et qui n'ont pas nécessairement participé depuis le début. Donc nous cherchons vraiment à avoir une grande, de nombreux points de vue. Donc nous souhaitons non seulement savoir quelles sont vos opinions par rapport à la proposition et aussi pourquoi vous avez telle ou telle opinion. Vous verrez que les questions que nous posons, ou nous poserons, seront de vous dire, bon, vous nous avez dit telle ou telle chose, vous avez proposé telle ou telle modification, dites-nous pourquoi. Et puis, avez-vous des suggestions? Donc, nous souhaitons réellement comprendre tout le raisonnement que les gens ont lorsqu'ils font tel ou tel commentaire. Et puis, nous allons également répéter quelque chose qu'a dit Patrick tout à l'heure, c'est qu'il y a deux processus de consultation publique qui ont lieu en ce moment. Nous avons déjà la proposition de transition qui est la nôtre et ensuite il y a également la période de commentaires sur l'amélioration de la responsabilité de l'ICANN. Donc dans ce cas-là, si vos questions ont trait à la responsabilité, ne les adressez pas à nous. Notre secrétariat peut d'ailleurs vous fournir le lien pour pour ces deux périodes de commentaires publics. Alors, en ce qui concerne les questions que nous avons posées, nous les avons toutes sur la diapositive. Nous avons quelques-unes, pardon, sur la diapositive. Donc, la première partie de questions, c'est sur la totalité de la proposition. La proposition combinée est-elle complète? Les propositions de la communauté opérationnelle fonctionnent-elles bien ensemble au sein d'une proposition unique? Est-ce que les propositions de la communauté opérationnelle qu'il faut rassembler incluent des mécanismes appropriés et adéquatement soutenus et indépendants de responsabilité pour la gestion des fonctions IANA? les résultats des tests ou d'évaluation de l'opérabilité éventuellement menés qui ont été inclus dans les propositions de la communauté opérationnelle sont-ils en contradiction les uns avec les autres ou présentent-ils des problèmes éventuels lorsqu'on les prend tous en considération? Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la proposition dans son ensemble. Et nous avons également un ensemble des questions sur les critères de la NCIA. Et il est très important, de notre point de vue, de comprendre si les gens qui font des commentaires pensent que nous avons répondu aux critères, que nous avons respecté les critères. Donc, est-ce que la proposition appuie et favorise le modèle bipartite? Est-ce que la proposition entretient la sécurité, la stabilité et la résilience du DNF? Est-ce que la proposition correspond aux besoins et attentes des clients et partenaires internationaux des services IANA? Et en particulier, s'il y a des partenaires, des clients qui nous donnent leur point de vue, eh bien, il faut qu'ils s'identifient. Et nous souhaitons savoir si vous pensez que la proposition entretient la nature ouverte de l'Internet. Est-ce que vous avez des inquiétudes, comme quoi la proposition remplacerait le rôle de la NTIA par une solution contrôlée par un gouvernement? Ou est-ce que vous pensez que la mise en œuvre de la proposition continuera de respecter les critères de la NTIA à l'avenir? Donc voilà un petit peu pour ce qui est des questions de l'ICG dans la période de consultation publique. Alors si vous souhaitez faire des commentaires, ils sont acceptés jusqu'au 8 septembre, jusqu'à 11h59 UTC. Nous avons un site web qui existe pour consultation publique. Vous pouvez vous y rendre et vous aurez davantage d'informations sur la proposition ainsi que des consignes pour soumettre vos commentaires. Il y a deux options pour soumettre des commentaires. Nous avons un formulaire web où vous pourrez donner votre point de vue. Nous avons également une option de soumission de questions ou de commentaires par email si vous ne souhaitez pas utiliser le formulaire web. Nous avons également un modèle Word au cas où vous souhaiteriez envoyer vos questions par email. Lorsque vous soumettez vos questions, vous allez avoir une confirmation par email. Et puis, on peut également publier votre commentaire dans les archives. Tous les commentaires seront d'ailleurs archivés publiquement. Voilà donc pour ce qui est de la soumission des commentaires. Et donc, ceci étant, je crois que nous sommes prêts à écouter vos questions et à y répondre. Donc, je crois qu'il y a des personnes qui suivent un petit peu les questions, mais j'aimerais simplement répéter la manière dont nous allons procéder. Donc vous avez deux options si vous souhaitez poser une question pendant le webinaire. Premièrement, vous pouvez la poser par oral, vous pouvez simplement lever la main sur Adobe. Vous avez un petit bouton qui vous permet de le faire en haut, sur la barre du haut d'Adobe, et nous prendrons votre question par oral. Vous pouvez également taper votre question dans le chat. Si vous avez une question à laquelle vous souhaitez que nous répondions de manière orale ou de manière et que vous l'avez posée dans le chat, eh bien nous vous demandons de suivre les consignes dans Adobe. Donc nous allons prendre vos questions. Et donc, si vous souhaitez le faire dans une autre langue, eh bien, vous pouvez poser votre question sur votre ligne et elle sera lue ou interprétée sur la ligne anglaise. Donc, vous avez également cette option. Et donc, ceci étant, je crois que nous sommes prêts à écouter vos questions. Et je vois qu'il y a eu un certain nombre de questions qui sont déjà tapées dans le chat. Première question que je vois nous vient de Chip. Est-ce que c'est bien ça? Je ne sais pas si c'est le nom. Madame la secrétaire. Oui. Alors, première question. Comment est-ce que le processus de développement de politique internationale fonctionnera après la transition. Et je crois que
Alan Barrett de la communauté des nombres est là. Est-ce qu'il peut répondre à cette question? Alan Barrett au micro. Oui, je vais répondre à cette question. Donc, le processus de développement de politique internationale pour la communauté des nombres ne changera absolument pas. Il va continuer de la même manière que ce qui existe aujourd'hui, avec la discussion des politiques qui seront faites au sein des différents RIR, avec ensuite accord en commun et ratification par le conseil d'administration de l'ICANN. Il y a bien sûr d'autres détails, mais d'une manière générale, le processus ne va pas changer. Très bien, merci Alan. Nous avons une autre question, également de Chip Sharp. Est-ce que les RIR SLA seront avec l'ICANN ou avec le PTI? Alan Barrett again. À nouveau. Le SLA des RIR sera avec l'ICANN et non pas avec le PTI. Et nous nous assurerons que l'ICANN a le droit de sous-traiter le travail au PTI, mais c'est en fait l'ICANN qui s'assurera de la conformité avec les modalités de la convention de service, donc, ou du SLA. Merci Alan. Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez poser, soit sur le chat, soit en levant la main, en utilisant la fonction audio? Eh bien, je crois que Patrick et moi avons réussi à résumer une proposition de 199 pages en une heure, c'est extraordinaire. Alors, eh bien, je crois qu'il y a une question de Bob. J'aurais dû le dire au début d'ailleurs. Identifiez-vous s'il vous plaît lorsque vous intervenez, si possible. Donc la question de Bob est la suivante. Est-ce que l'ICG a considéré ce qui allait se passer en termes de flux d'argent et en ce qui concerne le PTI, parce que bien sûr l'argent peut avoir un impact sur le travail. Je vais donner une petite réponse rapide, mais si les personnes qui s'occupent ou qui sont impliquées dans la communauté des noms souhaitent ajouter quelque chose, eh bien il ne faut pas hésiter. Donc l'ICG a pris en considération spécifiquement ce qui a été fourni par la proposition de la communauté. Il y a une discussion qui existe en ce qui concerne le budget de l'IANA dans la proposition sur les noms. Donc il y a des dispositions dans cette proposition qui définissent certaines exigences et qui habilite la communauté, voilà, c'est ce que je cherchais, donc qui habilite la communauté à prendre en considération le budget. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la proposition, mais je crois que c'est à peu près à ce niveau-là que nous nous en sommes arrêtés en termes de questions budgétaires. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent ajouter quelque chose là-dessus. Merci. Je vois dans le chat, excusez-moi, je vais lire en fait les questions et les réponses, parce qu'il est important d'avoir une transcription audio. Je vois une réponse à la question de Bob. Il n'y a pas de frais actuels de paiement en ce qui concerne les fonctions. Il n'y a pas de nouveaux frais.
Bon, eh bien, je crois que nous allons passer à la question suivante qui nous vient d'Avery Doria. Et donc la question est la suivante. Est-ce que l'ICG aura un rôle dans la résolution de la question en attente, des questions en attente telles que la disposition du nom de domaine IANA et d'autres marques? Donc, très bonne question. Dans la proposition en elle-même, comme Patrick l'avait mentionné, il y a une communauté qui avait défini une exigence en ce qui concerne la propriété intellectuelle et le lien avec l'IANA. C'est en fait la communauté des numéros. La communauté des numéros avait proposé que les marques de commerce et les noms de domaine soient transférés à une entité qui ne soit pas l'opérateur de fonction, et ce serait en fait le trust IETF. Les deux autres propositions c'est en fait que lorsque CG a fait son analyse des trois propositions ensemble, nous n'avons pas trouvé de compatibilité. Parce qu'il n'y a pas une communauté unique qui est exprimée d'exigence par rapport au droit de la propriété intellectuelle. Donc pour nous, si dans la période intérimaire, pendant la consultation publique, on se rend compte que la proposition qui existe, donc la proposition de la communauté des numéros, est considérée comme ne fonctionnant pas par les autres communautés ou par les gens qui font des commentaires, eh bien c'est tout à fait un sujet qui devra être pris en considération pendant la période de consultation publique. Donc je pense que nous continuons à avoir un rôle à savoir de nous assurer que la proposition est bien appuyée. Et puis, nous devons essayer également d'aider les communautés à coordonner leur travail. D'autres manques de l'ICG peut-être veulent ajouter quelque chose par rapport à ça?
Allô? Olivier Kwame en ligne, bonsoir. Allô?
Je ne vois pas d'autres mains levées.
Ok.
Donc, si vous voulez intervenir en français ou dans une autre langue, il faut lever la main sur Adobe Connect pour que l'intervenante puisse vous donner la parole. Sinon, le micro ne sera pas ouvert. Je crois que... Alors, j'ai l'impression que nous avons un participant sur la ligne française qui souhaite poser une question. Donc, on va attendre de voir si nous obtenons cette question de la ligne française. Donc, si vous êtes prêt à poser votre question en français, n'hésitez pas. L'interprète interprétera vers l'anglais. Olivier, je crois que vous vouliez poser une question. N'hésitez pas, je peux interpréter votre question.
Ok. Merci.
Vous n'avez pas de questions, donc?
Non, pas de questions pour l'instant.
Ok, aucun problème. Merci. Alors, d'autres questions dans le chat ou par audio? Je vois qu'il y a une discussion très animée dans la fenêtre du chat, mais je ne vois pas de questions spécifiques. Oui, allez-y. Je crois que nous avons une question. Daniel Karenberg, je crois que vous aviez levé la main. Daniel, je pense qu'il faut que vous repreniez la parole. Nous n'avons pas entendu votre question. Je crois que nous avons un problème technique. Nous allons demander à notre équipe audio de résoudre le problème. Mais il ne semblerait pas qu'il y ait d'autres questions entre-temps. Daniel, est-ce que vous pouvez de nouveau essayer de l'exprimer? Je ne sais pas si vous parlez, mais on ne vous entend pas. Bon, ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas à taper votre question dans le chat, si vous le souhaitez. Donc, nous continuons d'avoir des problèmes d'audio, donc on attend toujours que les gens puissent taper leurs questions ou les poser par oral. Y a-t-il d'autres questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main sur Adobe Connect ou à marquer sur le chat « question » en lettres majuscules pour que nous puissions y répondre. Alors, je vois la question de Daniel. Est-ce que l'ICG a remarqué que les autres communautés ont parlé de la solution IPR par le RIR? Donc, encore une fois, je vais commencer à répondre et puis, s'il y a des commentaires à faire, n'hésitez pas. Une fois que nous avons reçu les propositions des RIR et de l'EATF, nous avons demandé à ces deux entités si elles pensaient que leur proposition était compatible là-dessus. Et donc la réponse a été oui, c'est-à-dire que par exemple, sur tel sujet, l'IETF ne s'était pas exprimé et ils ne pensaient pas que leur proposition était incompatible avec la proposition faite par l'autre communauté. Et le Trust IETF a également exprimé le fait qu'ils étaient d'accord. Donc ça, c'était lors de la première série de communications entre les deux communautés là-dessus. Nous avons également eu la communauté des noms qui a reçu la même question et qui a eu confirmation comme quoi leur proposition ne s'était pas exprimée sur la question, mais qu'ils étaient donc en train de formuler une réponse là-dessus, en comprenant bien que les propositions combinées, à la base, étaient représentées dans la proposition de la communauté des numéros, qui était la seule à s'être exprimée là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de l'ICG qui souhaitent ajouter quelque chose par rapport à ça? Je ne vois pas de commentaires là-dessus. Donc, nous pouvons passer à la question suivante. Alors, je vais passer à la question de Avery. C'est ça? Alors, question de Avery. Est-ce que le Trust IETF a reçu une question par rapport à sa responsabilité fiduciaire au-delà de l'IETF? Alors, si je comprends bien la question, je crois que la réponse est non. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres personnes qui aient une meilleure réponse. Yari, peut-être? Non, Yari n'est pas là, mais il peut peut-être répondre dans le chat. Et je lirai votre réponse. Donc nous allons faire une petite pause pour que Yari réponde et qu'on puisse donc conclure cette question. Alors, je n'ai pas l'impression que la réponse de Yari soit en cours. Je ne vois pas sur le chat Yari taper sa réponse. Ah, tiens, là voilà. D'accord. Alors, donc par rapport à la question d'Avery, voilà la réponse de Yari. Les détails des accords réels et des arrangements considérant IPR et les domaines sont encore à déterminer. Cependant, à mon avis, il doit y avoir des accords selon lesquels les responsabilités spécifiques et les droits spécifiques sont attribués aux parties, donc les communautés opérationnelles et l'opérateur IANA. Donc, pour faire bref, oui. Et donc, je représente simplement, je parle en mon propre nom en tant que membre du trust. Je ne représente pas tout le trust. Alors, il y a quelques mains levées.
Nous allons donc donner la parole à ces différentes personnes. Nouvel intervenant au micro. Donc cette présentation est très intéressante. Il y a deux questions. Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises suite au MOU avec l'IETF? Qui sont soumises à l'habilitation de la communauté ou au pouvoir de la communauté, au jugement, de manière à ce qu'ils font ne soit pas complètement indépendant. Est-ce qu'il y a une compréhension directe entre les paramètres de protocole, les nombres, et les... Non, de manière à ce que les choses ne soient pas complètement séparées, parce que les noms et le DMS... Il faudrait clarifier la relation, la surveillance des activités du PTI et l'IRP, le panel de révision indépendante. Le CSC d'un côté, le panel de l'autre côté, et donc les relations de manière à mentionner comment le système fonctionne. Ceci est mentionné par le CCWG. C'est une question qui a été soulevée par les collègues. Merci beaucoup. L'interprète s'excuse, j'ai une interruption de l'audio. Merci beaucoup. Je vais réfléchir à cette question dans la présentation de demain, donc lorsque nous passerons en revue le feedback que nous avons reçu. Ce que je dirais par rapport au premier point, et par rapport au concept du panel de révision indépendant, le travail de la responsabilité s'applique à toutes les activités de l'ICANN, en tout cas c'est ce que je comprends, et donc ceci inclut les activités de l'ICANN par rapport aux accords qui existent, y compris les accords avec les RIR. Donc, ceci permet peut-être de clarifier ce qui se passe au niveau des IRP. Même si le IRP, en fait, n'est pas réellement... En fait, la décision de créer le IRP, en lien avec la création de la proposition sur la responsabilité. Y a-t-il des questions, des commentaires des membres de l'ICG par rapport à cette question? Y a-t-il d'autres questions dans le chat? Ou des questions qui sont posées par audio, par téléphone, qu'à vous, allez-y. Oui, juste une petite intervention pour clarifier les choses. La dépendance de la transition IANA en lien avec le CWG et les interdépendances avec le CCWG, c'est une question qui a été soulevé, comme quoi tout est soumis à l'opérabilité et à la mise en œuvre de ces questions. Et certaines de ces questions ne sont pas vraiment... Si certaines de ces questions ne sont pas bien mises en application, eh bien, il faudra revoir la situation. Cependant, il y a différents domaines que le CCWG prend en considération, Et pendant la période de consultation publique, il est tout à fait possible qu'il y ait certaines régions, en tout cas certains amendements, qui pourront avoir un impact. Donc cela ne peut pas être exclu. Et c'est une question qui est en cours de considération. Le CCWG, aujourd'hui, par rapport aux connaissances qu'il a fait ce qu'il a pu, il a fait un excellent travail, mais qui est quand même soumis à la période de consultation publique qui pourrait avoir un impact sur une révision de la situation de manière indirecte. Parce qu'il y a donc le CWG dommage qui a un impact sur la transition. Il y en a, et donc ceci est important et je vous conseille d'écouter le webinaire du CWG. Merci, Carlos. C'est une excellente suggestion. Et donc, pour répéter ce qu'a dit Patrick, nous avons reçu des commentaires publics. Le CWG aura reçu également ses commentaires publics. Une fois que la proposition aura été finalisée, eh bien, il faudra qu'il y ait confirmation par la communauté des noms. Et donc, tous les critères devront être respectés. Et ceci représentera une étape importante pour nous, de nous assurer que la proposition sur la transition est complète et qu'elle respecte tous les souhaits des différentes communautés. D'autres questions ? Dans le chat ou en levant la main peut-être ? Oui, Cavus, Aratesh, allez-y. Je voulais simplement, Cavus au micro, je voulais simplement rajouter que cet appel est très important. Alissa, micro. Oui, voyons si nous avons d'autres questions. Alors, Cavus, est-ce que ce que vous avez à ajouter, c'est un point sur l'ICG ? L'ICG, oui. Donc, effectivement, oui, je voulais parler de l'ICG, donc... Allez, sans micro. Je voulais simplement remercier tout le monde tous ceux qui ont participé au webinaire d'aujourd'hui. Je pense que nous avons terminé. Je vous remercie pour vos questions, vos commentaires dans le chat. La transcription du chat ainsi que l'enregistrement audio seront mis à disposition sur le site web de l'ICG une fois la séance terminée, de manière à ce que vous puissiez les consulter si vous le souhaitez. Et je voulais simplement conclure en disant que l'ICG souhaite connaître votre opinion. Donc, exprimez-vous par rapport à vos préoccupations pendant la période de consultation publique ou si vous souhaitez simplement exprimer votre soutien, n'hésitez pas à faire vos commentaires positifs, négatifs. Même si vous avez simplement des commentaires de soutien à faire, eh bien, nous serons très heureux de les lire, de les recevoir. Donc, qu'à vous, si vous souhaitez rester, nous pouvons poursuivre la conversation pendant quelques minutes, parce que vous avez d'autres choses donc à discuter avec nous. C'est tout à fait possible. Oui, j'attends qu'à vous, au micro, oui, j'attends que vous me donniez le feu vert.
Je comprends que les gens sont en train de planifier pour le TWG en même temps que les CG. Je ne le recommande pas. Donc, il est très important d'éviter tout parallèle, tout travail simultané entre les deux. Ceci est très important pour les liaisons qui doivent remettre les messages entre les deux. Donc, bien sûr, on peut parler au président des deux groupes de manière à ne pas avoir des réunions simultanées, surtout lors des réunions de l'ICANN.